France Info.
Bonsoir, non, tu ne sais pas tout, mon pote, quand Bernard Tapie, avec son parler vrai, conseille à Emmanuel Macron de mieux s'entourer. À la une des informés, la crise des gilets jaunes révèle une crise de gouvernance, un dialogue compliqué avec les Français et provoque une série de couacs. Le texte de loi sur les mesures présentées ce matin au Conseil des ministres est déjà à l'Assemblée nationale, mais les décisions, vous le verrez, vont mettre quelques temps à s'appliquer. Le grand débat national fera-t-il patienter les gilets ? Benjamin Griveaux prévient, pas question de rejouer la présidentielle ou de détricoter les réformes. Les policiers, de nouveau reçus à Beauvau, poursuivent leur mouvement. La prime à 300 euros est vécue comme un cache-misère. Enfin, encore une histoire d'impôts. Bruno Le Maire, lui, veut taxer les GAFA sans attendre Bruxelles dès le 1er janvier. Mesure très attendue, mais peut-elle être appliquée par la France toute seule? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Ravi de vous revoir, hein, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Également invitée, Céline Boisson. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Directrice associée de l'agence de communication Nude. À mes côtés également, David Bosmorin. Bonsoir, David.
Bonsoir.
Co-fondateur de Conseil Média Invest et de l'agence OPS2 et également notre autre partenaire désinformé. Bonsoir, Jean-Sébastien Ferjou.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur d'Atlantico.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron est-il mal entouré? Après un mois de crise, le chef de l'État peine à rétablir ce dialogue avec des gilets jaunes qui, certes, désertent désormais les ronds-points, mais attendent désormais du concret. À croire certains échos venus des rangs de la majorité, le président montrerait quelques signes d'impatience à l'égard de ce que l'on appelle les technos. Bernard Tapie, invité de Léa Salamé sur France Inter ce matin, a porté un regard sur la manière de gouverner de ce jeune président.
Il n'a pas été autre chose que ce que je m'attendais. Quand vous voulez faire un métier, que vous avez l'aspiration de le faire au plus haut niveau, vous pouvez ne pas avoir une expérience, c'est moi qui vous parle. Hein ? Mais entourez-vous de ceux qui ont les expériences. Nous, on est les intelligents. Nous, on a fait l'ENA, puis on a été inspecteur des finances. Nous, on sait tout. Non, tu sais pas tout, mon pote. Et ce que tu sais, c'est utile. Mais il faut aussi des mecs qui sont avocats, des mecs qui sont commerçants, des mecs qui ont vécu l'action.
Donc le problème, c'est l'entourage ?
Ben, il faut s'entourer des gens qui ont la compétence que vous n'avez pas. Pas des gens qui se ressemblent, sinon ça sert à rien.
Voilà, Bernard Tapie qui mène, vous le savez, un dur combat contre le cancer. Audrey Goutard, il faut être entouré de gens qui ne nous ressemblent pas, dit l'ancien ministre de la Ville. Il n'a pas tort, hein.
Oui, ce que Bernard Tapie veut dire, c'est que effectivement, faut pas s'entourer, vous le disiez, de techno. Enfin, on voit bien que l'entourage d'Emmanuel Macron et son parcours personnel, d'ailleurs, c'est les finances. C'est effectivement des inspecteurs des finances qui font certainement de très bons calculs. Mais le problème, et c'est ce qui transparaît dans le discours de Bernard Tapie, mais aussi des députés LREM, le problème, c'est d'un côté, il y a les calculs et peut-être les bons calculs, mais de l'autre côté, il y a la vie. Et effectivement, ouais. Il faut que les recettes que l'on propose s'adaptent à la vie courante de tous les jours. Le fameux bon sens. Alors voilà, c'est ce que voulait dire, à mon sens, Bernard Tapie.
Jean-Sébastien Ferjou, cette gouvernance trop techno.
Oui, incontestablement un problème de trop grand pouvoir de la technocratie en France. Mais enfin, ça ne fait que refléter l'espèce de renoncement du politique. Et je suis quand même enclin à croire que l'entourage de Emmanuel Macron ne s'est pas imposé à lui. C'est quand même lui qui l'a choisi. Donc à l'arrivée, quoi qu'il en soit, c'est quand même lui le responsable. Et s'il y a un problème, c'est lui. Quant au bon calcul que vous évoquiez, malheureusement, dans un certain nombre de cas, non, ils ne sont pas du tout bons. Et c'est précisément, je pense, ce qui alimente aussi la crise politique actuelle. C'est que nous avons la chance, incontestablement, d'avoir une haute fonction publique qui est efficace. Et dans un État, c'est bien d'avoir aussi des énarques, d'avoir des gens qui savent gérer. Ça aide la France à rester une puissance mondiale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison tout le temps, et ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas historiquement. Et là, nous sommes dans une période de vache maigre. Regardez, pour prendre un exemple, le cas de l'EPR. Le cas de l'EPR, on a tué la technostructure française par une succession de mauvaises décisions, a tué la filière du nucléaire français qui était pourtant...
L'EPR, ce n'est pas le président de la République, hein, c'est le nucléaire nouvelle génération. Hein.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même, ce sont des décisions qui sont prises justement sur la base de cette fameuse expertise de la haute fonction publique française et qui se révèle totalement démentie par les faits. Ensuite, là, on va au mois de janvier, on est en train de foncer sur un mur en klaxonnant. Le prélèvement à la source, moi, je vous le dis, ça va être tragique parce que la réalité, c'est que sur la taxe d'habitation, il y a d'ores et déjà énormément de bugs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas juste qu'il faut adapter des calculs à la vie, c'est qu'il faut aussi que les calculs soient bons.
Vous dites qu'on va dans le mur avec ce prélèvement à la source. Céline Boisson, vous y croyez-vous à ce président qui fustigerait dans son bureau les technos, les directeurs centraux des administrations parce que ça ne va pas assez vite ?
Pour moi, je pense que le problème du président et du gouvernement, c'est en fait lui-même, avec un manque de remise en question. Je pense qu'il est malheureusement aujourd'hui, à l'instant T, pas à la hauteur de sa campagne présidentielle. Il a revendiqué des choses. Il a prôné le fait qu'il venait de la société civile, qu'il voulait dynamiter la politique d'avant. Mais finalement, on se rend compte que rien n'est vraiment en place. Il veut peut-être avancer vite, un peu trop vite d'ailleurs, beaucoup trop vite à mon goût. Oui, il faut mettre des choses en place, mais je pense qu'il n'a peut-être pas assez anticipé.
David Bosmorin, le chef de l'État, finalement, qui serait freiné par la technostructure, c'est un scénario qui est possible selon vous ?
Est-ce que, in fine, on n'est pas dans une remise en question d'une forme de séquence temporelle du quinquennat ? C'est relativement récent chez nous. On a connu le septennat pendant très longtemps et on entend toujours les mêmes critiques depuis que le quinquennat a été mis en place, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Peut-être que la temporalité ne correspond pas finalement.
C'est trop long ou trop court.
Ça ne correspond pas à ce qu'attendent les électeurs.
Audrey Goutard.
Oui, en fait, il faut aussi faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a la technostructure, ça veut tout dire et quelque part pas dire grand-chose. D'un côté, il y a la grande administration qui est là pour mettre en musique les mesures gouvernementales. Et puis d'un autre côté, il y a l'entourage proche d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, son directeur de cabinet, etc., qui viennent de la finance. Alors, est-ce qu'on doit remettre en question ces grands commis de l'État,
ces profils,
profil de la finance, ou est-ce qu'il faut remettre en question la grande administration qui fait marcher la machine ?
Ou alors le quinquennat même, comme le disait à l'instant David Bosmorin. Le rappel de l'info à 20h10 avec vous, Boris Allier. On poursuit sur ces questions de gouvernance.
De longues files d'attente aux aéroports d'Orly et de Roissy, les policiers aux frontières appliquent l'appel à la grève du zèle lancée par les syndicats de policiers. La prime de 300 euros proposée par le gouvernement n'est pas suffisante selon eux. Les discussions avec le ministre de l'Intérieur doivent reprendre ce soir. Les gilets jaunes restent mobilisés sur les autoroutes. Une trentaine de points du réseau Vinci sont toujours perturbés selon la société. Sur l'A7 dans le Vaucluse ou sur l'A9 entre Montpellier et l'Espagne notamment, les démantèlements de barrages par les forces de l'ordre se poursuivent. 170 points de blocage ont été dégagés depuis samedi, selon le secrétaire d'État à l'Intérieur. L'affaire Jérôme Kerviel, le licenciement pour faute grave de l'ex-trader de la Société Générale, était fondé. C'est l'avis de la Cour d'appel de Paris qui annule donc la condamnation de la banque au prud'homme. Jérôme Kerviel ne touchera pas son bonus de 300 000 euros pour l'année 2007. Ses avocats envisagent un pourvoi en cassation. Et puis les quelques 2000 soldats américains vont bientôt quitter la Syrie, c'est ce qu'assurent des responsables américains. Donald Trump, lui, se félicite sur Twitter. L'objectif de vaincre l'État islamique a été atteint. C'était la seule raison de la présence américaine dans le pays, écrit-il.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ça coince un petit peu dans la gouvernance. Résultat des courses, eh bien, cela fait plusieurs semaines que les annonces contradictoires se multiplient. L'Élysée, Matignon, Bercy, en mode cacophonique et premier de cordée. Édouard Philippe, qui a fait voter à l'Assemblée une suspension des hausses de taxes sur les carburants, souvenez-vous, pendant qu'Emmanuel Macron l'annulait. Puis le chef de l'État annonce 100 euros de plus pour le SMIC. La mesure s'appuiera en fait sur la prime d'activité. Et hier, Matignon renonce aux trois mesures de la mi-novembre, chèque énergie, barème kilométrique, prime à la conversion des gros rouleurs, avant de renoncer dans la soirée au renoncement qui devait rapporter 130 millions d'euros. Édouard Philippe a dû se justifier aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat, mais que ce texte qui prévoit des mesures puissantes permettra la réinjection dans l'économie de plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat vers les actifs.
Jean-Sébastien Ferjou, il est fragilisé, ce Premier ministre.
À ce niveau-là, ça relève même plus de la fragilisation ou de la fragilité. Il est carbonisé, il est totalement carbonisé. On voit bien qu'Emmanuel Macron s'énerve non seulement contre les technocrates dont on parlait tout à l'heure, mais aussi contre Édouard Philippe, alimenté en ça par un certain nombre de gens de son entourage politique, pour le coup, comme François Bayrou, qui ne cesse de lui expliquer qu'Édouard Philippe est coupable de tous les maux. Ce qui est... pour partie vrai, Édouard Philippe incontestablement a commis un nombre de maladresses politiques assez extravagantes. Son manque d'instinct ou d'empathie avec le pays, mais c'est pas très étonnant, il est juppéiste, est assez sidérant. Maintenant, on en revient toujours, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est quand même Emmanuel Macron qui est lui-même... au cœur du problème, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est lui qui l'a créé, la situation. Il y a quand même un côté ironique à le voir là, se lamenter sur l'administration ou la technostructure qui l'entoure. Qui a demandé à ce que ses ministres aient le moins de conseillers possible, au motif quoi, que ça allait faire des économies de l'État ? C'est complètement ridicule, parce que c'est peanuts ce que ça nous coûte. Mais oui, mais c'est profondément important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle du politique sur l'administration. La logique de faire ça, c'était éventuellement, et c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, de dire nous allons organiser un spoil system, c'est-à-dire changer tous les directeurs d'administration centrale.
Oui, ça c'est la preuve de départ.
Sauf qu'il ne l'a
ça.
Pas fait.
Oui, mais ça n'a jamais existé.
Mais donc la logique du contrôle politique, d'une certaine manière, ou de l'absence de contrôle politique, c'est encore lui, parce que c'est comme hier. Il y a quand même des communications entre Matignon et l'Élysée. Quand Matignon a annoncé la suppression.
Ça reste un grand mystère, tout ça.
Non, moi je pense que c'est pas mystérieux. Alexis Kohler et Benoît Ribadeau-Dumas, qui sont les deux secrétaires généraux, sont en communication à longueur de journée. Donc que l'Élysée, à un certain degré, avait validé ce qu'Édouard Philippe a annoncé. Il y a eu la fronde des députés ensuite, et l'Élysée est revenue après dessus.
Mais Audrey Goutard,
un problème d'organisation de celui qui est au sommet.
Pour prolonger ce que dit Jean-Sébastien Ferjou, le président décide, le Premier ministre exécute. En quoi est-il responsable, Édouard Philippe, de ce qui se passe ?
C'est-à-dire que c'est, comme disait Jean-Sébastien, on sent qu'il y a quand même un entourage, moi je maintiens, qui est très focalisé sur le budget. Depuis le début, qu'il s'agisse d'Alexis Kohler, je vous rappelle, c'est l'ancien directeur adjoint de Pierre Moscovici à Bercy, qu'il s'agisse effectivement du directeur de cabinet d'Édouard Philippe, ce sont des politiques qui dès le départ ont dit, voilà, il y a un problème, il y a le budget, il y a la contrainte des 3% de déficit, il faut qu'on arrive à boucler ce budget. Et du coup, effectivement, ça a été complètement l'aspect humain, si vous voulez, des mesures a été négligée, on le sent bien. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez un rétropédalage où la politique rentre en ligne de compte et c'est les députés qui alertent Macron, qui alertent Édouard Philippe en disant attention, il faut aussi être politique.
Du coup, là, ça fonctionne quand même.
Du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, dans cet épisode, c'est que le levier du Parlement a fonctionné. C'est que ce sont les parlementaires qui sont des gens de terrain, qui sont retournés voir le politique en disant attention. Vous êtes en train de faire une erreur. On ne peut pas être simplement sur, effectivement, une gestion purement budgétaire.
Édouard Philippe, David Bosmorin, qui avait dit « on ne change rien », eh bien, il est prié de bricoler des usines à gaz sur le SMIC, sur la CSG des retraités, sur des taxes diverses et variées. Sale job, finalement. C'est un dur boulot.
C'est infernal. Ce qui ressort, c'est la stupeur. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu arriver. C'est arrivé d'un coup et ils ont été stupéfaits, et c'est le mot, par le côté spectaculaire du phénomène des Gilets jaunes. Et ils ont dû agir en fonction. Et c'était très difficile parce que personne n'a anticipé ce mouvement.
Vous voulez dire quoi, ça va trop vite, c'est ça ? Ça va trop vite, y compris pour des jeunes dirigeants qui pariaient sur la vitesse ?
Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans les médias, on parle des Gilets jaunes comme si c'était un mouvement constitué avec un cursus, avec une forme de dogma politique qui est structuré. Ce qui n'est pas le cas, car on sait que c'est extrêmement disparate. Et c'est ça, en fait, qui surprend le gouvernement, et ils ne savent pas comment gérer cet objet qui in fine, demeure inconnue.
Céline Boisson, ils ne savent pas comment gérer, disait David Bosmar à l'instant, et même communiquer, puisque même égrener les mesures qui ont été décidées, qui ont toutes, chacune des reports et chacune des, on va dire, des mécaniques particulières, c'est extrêmement compliqué à expliquer au grand public.
Oui, c'est compliqué. Je pense qu'on ressent en tous les cas de l'extérieur une certaine panique. C'est-à-dire que les tensions sont palpables au niveau du gouvernement. Je pense qu'ils veulent aller très vite. Ils se doivent d'aller très vite suite à la déclaration d'Emmanuel Macron. Et du coup, on ressent quelque chose de très désorganisé, à la fois dans la prise des décisions, dans la communication. Du coup, il y a des couacs. Et ça devient... c'est pas un très bon signal aussi. Hein. Ça veut dire que ça peut aussi lancer le signal que bah, si c'est désorganisé aujourd'hui, comment ça va être aussi en janvier, février, mars.
Vous trouvez cela anxiogène, vous ?
Un petit peu, oui.
Audrey Goutard, pourtant tout le monde se parle. Il y a un conseil des ministres. Je suis même persuadée que nos commentaires pourraient presque les amuser. Tant qu'ils s'entendent bien entre eux, c'est une équipe qui gouverne quand même. Rassurez-nous.
Non, c'était en situation de crise comme celle-là.
C'est un bras ironique. Hein.
J'ai bien compris. En situation de crise comme celle-ci, la patate chaude, on essaye de la balancer aux voisins le plus rapidement possible. On voit bien qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de protéger le président. En disant, voilà, c'est les conseillers les plus proches qui ont mal dirigé, enfin, conseillé le président.
Oui.
Mais ce que je trouve intéressant, je disais dans Le Monde ce soir, il rappelait la phrase d'Emmanuel Macron quand il a quitté son poste de secrétaire général adjoint auprès de Hollande. Il disait, j'assume tout en étant politiquement responsable de rien. J'assume tout en étant politiquement responsable de rien, puisque je n'étais que conseiller. Alors si aujourd'hui on voit, par exemple, effectivement le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ou celui d'Edouard Philippe être viré, puisque c'est le risque, c'est en tout cas c'est la rumeur qui court, à ce moment-là, effectivement, on pourra rappeler à Emmanuel Macron sa phrase.
Et pour conclure, ceux qui parlent d'un possible départ d'Edouard Philippe, c'est un peu tôt, non ?
Est-ce qu'on se débarrasse si vite d'un fusible alors que la crise n'est pas passée ?
Bonne réponse avec vous, Audrey Goutard, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec Boris Allier.
Une décision accueillie avec des applaudissements et des larmes de joie. Les 281 salariés d'Ascoval dans le Nord fêtent la reprise de l'aciérie de Saint-Solve. Le projet du groupe franco-belge Altifort a été validé par le tribunal de Strasbourg. La fin de plusieurs mois de mobilisation, 140 nouveaux emplois devraient être créés en 2 ans, assure le PDG. Les mesures exceptionnelles du gouvernement désormais inscrites dans un projet de loi. Il a été déposé ce matin. Prime de fin d'année, heures supplémentaires défiscalisées, revalorisation de la prime d'activité. Le texte sera examiné dès demain à l'Assemblée nationale. La perspective d'un Brexit sans accord continue à inquiéter les Européens. La Commission européenne adopte donc des mesures pour limiter les effets d'un no deal, notamment dans les secteurs des services financiers et des transports aériens. À 100 jours du Brexit, le gouvernement britannique, lui, a présenté son livre blanc sur le système d'immigration qui sera mis en place après le 29 mars. Et puis, la suite des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue de football. Ce soir, Lyon mène face à Amiens en ce moment. 6 autres matchs sont à suivre dès 21h05. Parmi eux, Rennes, Nantes ou Marseille face à Strasbourg.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et Jean-Sébastien Ferjou veut répondre à Audrey Goutard. Vous avez quelque chose à ajouter, je le sens.
Je ne sais pas forcément répondre à Audrey en tant que telle, compléter le propos. Non, mais il y a la question des entourages, incontestablement. On peut avoir des gens qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins d'instinct politique ou plus ou moins d'instinct du pays. Mais je pense que c'est beaucoup plus grave que ça pour Emmanuel Macron. C'est l'ADN même de son quinquennat qui est remis en cause à l'heure actuelle par les Français et par les Gilets jaunes, même s'il n'y a pas de superposition entre les deux. Et ce n'est ni le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ni le directeur de cabinet d'Edouard Philippe qui ont décidé de la logique du quinquennat qui était de dire remettons de l'ordre dans les comptes en France, faisons des réformes structurelles et ensuite nous pourrons aller voir l'Allemagne pour redresser le rapport de force au niveau européen. Donc ça, c'est le sens profond de la politique d'Emmanuel Macron. Mais là où on tombe sur un loup, c'est qu'il y a eu une incompréhension pendant la campagne présidentielle. Parce que ce qu'Emmanuel Macron a vendu aux Français, c'était la révolution, c'était la différence. Et il l'a fait de manière presque magique. Alors précisément parce qu'il y a eu cette espèce de magie et par ailleurs l'affaire Fillon, personne ne s'est vraiment préoccupé de savoir quel était le contenu de sa politique. Et je pense que là, le gouvernement déchante parce qu'il pensait que les Français avaient validé sa vision des choses. choses. Et les Français, eux, déchantent parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était ça la vision politique d'Emmanuel Macron.
À propos de révolution, Emmanuel Macron mise gros sur le grand débat repoussé donc d'un mois à la mi-janvier. Quelle sera la limite de cette concertation nationale? Écoutez les explications de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres.
Ce grand débat national, ça n'est pas rejouer l'élection présidentielle. Ça n'est pas détricoter ce qui s'est fait les 18 derniers mois. Mais c'est bien identifier par consensus des problématiques communes à nos concitoyens et identifier les solutions que les pouvoirs publics sont en mesure d'apporter.
David Bosmorin, apparemment la limite est tracée, ne pas rejouer 2017 et ne pas détricoter les réformes. Donc à quoi peut servir un grand débat?
Eh bien, c'est une excellente question.
Oui, vous avez du mal à répondre, parce que chacun a du mal à répondre à cette question-là. À quoi peut bien servir
ce débat?
Non, non, mais on va répondre.
David Bosmorin.
Oui, à rien, donc, a priori, mais... En fait, ce qui ressort, et je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le quinquennat, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, on a entendu quoi? Amateurisme. Lorsque François Hollande a été élu, amateurisme. Et là, aujourd'hui, on entend quoi? Encore une fois, amateurisme. Probablement qu'il s'agit d'une crise du quinquennat, il s'agit d'une crise qui est constitutionnelle, c'est-à-dire sur le régime présidentiel, voire parlementaire de la France aujourd'hui.
Pour vous, c'est un régime qui ne fonctionne plus, peu importe ce qu'on y met dedans.
Qui ne convient plus, en tout cas, aux attentes des Français.
Céline Boisson, même question qu'à David Bosmorin, à quoi peut servir ce grand débat si d'ores et déjà certaines frontières en ont été tracées?
Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est l'opération de la dernière chance pour essayer de retrouver une image un peu plus positive et du coup se rapprocher des élus de proximité. Ça, c'est la première chose. Il l'avait déjà fait d'ailleurs pendant sa campagne où il avait été voir pour récolter des idées et monter son programme. Mais comme une fois élu, ça n'a pas marché, c'est encore une fois... un peu anxiogène parce que c'est très obscur ce qu'il va y avoir dans ce débat. Il va durer 2 mois, ce qui est très court. Comment on peut faire un débat national en 2 mois? Il aurait fallu se donner un peu plus de temps. Et j'espère que ce débat donnera lieu à des solutions très concrètes pour ne pas recréer une déception.
Alors oui, Audrey Goutard, vos voisins de palier sont assez pessimistes. Et vous, le grand débat, vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose de positif?
Je trouve que ce grand débat est une chance pour la France. Et ça n'est pas donné à Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui en est l'auteur. C'est... On sent bien que les Français, nous on voit bien au travers de nos reportages, depuis des années, et ça ne date pas de la présidence Macron, c'est bien avant. Les Français ont l'impression... à juste titre ou pas, je n'ai pas à juger, ont l'impression de ne pas être entendus. Ils ont l'impression que les politiques ne les relaient pas, ils ont l'impression que leurs élus n'ont aucune voix à Paris, que Paris est bien loin, et on les voit sur les carrefours. Il y a le principe même des gilets jaunes, c'est tout à coup se retrouver ensemble, recréer un lien social et politique et pouvoir exprimer quelque chose. Alors c'est pour ça d'ailleurs que c'est un espèce de fourre-tout avec plein de choses à exprimer. L'avantage du débat national, c'est qu'à un moment donné, c'est cathartique. On pose ça sur la table, les gens s'expriment au travers de leur maire, au travers de leurs députés, ça remonte. Tout à coup, on se reparle. Et je pense que c'est un point très positif, au contraire. Ouais. Et que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron, c'est grâce à ces gens qui, à un moment donné, ont dit « Écoutez-nous, on ne vote plus, écoutez-nous ».
Jean-Sébastien Ferjou, vous dites « chiche » alors du coup?
Non, parce que je pense que c'est trop ou pas assez. Et on ne peut pas faire comme Benjamin Griveaux en disant finalement les lignes rouges sont déjà tracées. C'est-à-dire que soit on va au bout de la logique pour avoir l'effet cathartique dont parle Audrey et on fait une constituante en quelque sorte, puisqu'il y a des cahiers de doléances qui sont déposés dans les mairies, et faisons des états généraux et allons au bout de cette logique quasi révolutionnaire. Mais ça n'est pas ce que le gouvernement a en tête à l'heure actuelle. Et d'une certaine manière, moi ça m'évoque le syndrome du cadeau de Noël. Je sais pas si vous en souffrez, mais moi j'en souffre. C'est-à-dire qu'on vous demande toujours, mais qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau?
Parce que personne ne vous offre rien, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est qu'on me demande et je ne sais jamais avant et je le sais le jour de Noël en voyant le cadeau en me disant non, en fait c'était autre chose que je voulais. Non, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous parler de moi. C'est parce qu'il me semble que de la même manière avec les gilets jaunes, on est en train de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont une revendication qui n'est pas sur des mesures de détail. Ils ont une revendication qui est plus profonde, justement.
Bah,
et là,
entendu.
On est en train de se noyer. Oui, mais d'être entendu, ça veut tout et rien dire.
Parce que précisément.
Non,
mais juste pour aller au bout, c'est-à-dire que là où je vous disais c'est trop ou pas assez, il y a d'autres outils qui sont utiles, comme les conférences citoyennes qui incitent les gens à construire des solutions ensemble. Juste écouter les gens sur leurs revendications. Moi, ce que je vous dis, c'est que toute la théorie économique, et il y a des prix Nobel d'économie qui ont été d'ailleurs récompensés récemment pour ça, nous sommes, les individus sont beaucoup moins rationnels que ce qu'on croit.
Je vous promets que le débat va se poursuivre sur ce plateau dans quelques minutes après le rappel de la météo et le retour des infos. On se retrouve à tout à l'heure pour la suite des informés.
Les éditions Radio France présentent 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière. De Broadway à Paris, de George Gershwin à La La Land, en passant par West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort ou Starmania, découvrez l'univers passionnant de la comédie musicale dans un livre référence illustré de photographies, de documents et d'interviews. I'm dancing, 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière, une coédition Radio France. Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, deux points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Journée de transition demain avec une petite accalmie temporaire. Des averses sont tout de même à craindre près des côtes de la Manche et du Sud-Bretagne au Poitou-Charentais au Nord-Aquitain. Ces averses débordant jusqu'au Massif central. Les averses seront plus localisées sur le Nord-Est mais donneront un peu de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Des éclaircies se dessineront en Normandie et en Bretagne. Elles seront plus timides l'après-midi mais se développeront jusqu'en Île-de-France et au Berry. La journée sera plus lumineuse entre l'Est des Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes avec un soleil légèrement voilé. Quelques plaques de brouillard pourront tout de même retarder l'arrivée du soleil en basse vallée du Rhône. Demain, les températures maximales vont rester stationnaires, variant de 8 à 15 degrés. Pour les minimales, prévoyez seulement 1 degré à Grenoble et Montélimar, mais 9 degrés à Biarritz et La Rochelle. A noter que le vent restera sensible sur la majeure partie de la moitié nord.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Pas question pour l'exécutif de laisser monter la colère des policiers. Deuxième réunion ce soir après celle d'hier, place Beauvau, entre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et les syndicats. Certains d'entre eux ont organisé des actions symboliques un peu partout en France aujourd'hui pour demander une meilleure considération, de meilleures conditions de travail. Yves Lefebvre est le secrétaire général du syndicat Unité SGPFO.
On ne lâchera rien dès lors que le pouvoir d'achat des gradés gardiens de la paix n'aura pas été suffisamment revalorisé. Il nous faut des annonces immédiates, très claires, budgétées et derrière, bien évidemment, toute la résolution du stock et du flux des heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2019. Mais c'est très clair qu'en ce qui concerne l'intersyndical, s'il n'y a pas de revalorisation significative du pouvoir d'achat ce soir d'acté pour les gradés gardiens de la paix, ça sera une rupture des discussions pour ce qui nous concerne et une action qui ira en se densifiant dès demain matin.
Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité SGPFO. Le gouvernement a déjà promis de verser une prime de 300 euros aux forces de l'ordre mobilisées face aux gilets jaunes. L'exécutif a aussi réaffirmé sa volonté de régler le dossier des heures supplémentaires. Les promesses présidentielles à 10 milliards d'euros pour tenter de répondre aux gilets jaunes sont passées en Conseil des ministres ce matin. Ce projet de loi resserré de 4 articles sera examiné dès demain à l'Assemblée nationale puis vendredi au Sénat. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire salue une bonne nouvelle pour l'industrie française après la reprise de l'acierie Ascoval de Saint-Saulve par le groupe franco-belge Altifort. C'est le tribunal de grande instance qui a validé cette décision aujourd'hui. Un soulagement pour les 281 salariés du site. Les États-Unis vont retirer leurs troupes de Syrie. C'est le souhait exprimé par Donald Trump aujourd'hui. Le président américain estime avoir atteint son objectif de vaincre le groupe État islamique et envisage un retrait complet des quelques 2000 soldats qui s'y trouvent encore dans le nord du pays. C'est la fin d'un bras de fer long de plusieurs mois. La Commission européenne et l'Italie sont parvenus à un compromis sur le projet de budget italien pour 2019. Un accord qui va permettre dans l'immédiat à Rome d'échapper à des sanctions pour déficit excessif. Qui va rejoindre le PSG en quart de finale de la Coupe de la Ligue? Réponse ce soir avec 7 matchs au programme. C'est bien parti pour l'Olympique lyonnais qui est en train de mener 3 buts à 1 sur le terrain d'Amiens. Il reste seulement quelques minutes à jouer. Les autres matchs ce soir à partir de 21h05, Monaco-Lorient, Rennes-Nantes, Dijon-Bordeaux, Nice-Guingamp, Le Havre-Nîmes et puis Marseille-Strasbourg. Marseille-Strasbourg que nous suivrons en direct sur France Info donc à partir de 21h05. Tout de suite sur France Info, la deuxième partie des informés puisqu'il est 20h33. C'est avec bien sûr Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Céline Boisson, directrice associée de l'agence de communication Nude, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico.fr, avec David Bosmorin, cofondateur de Conseil Média Invest et de l'agence OPS2. Alors les policiers, vous le savez, sont toujours en colère et sont reçus en ce moment même par Christophe Castaner, place Beauvau, pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. Un deuxième round de négociations donc est en cours. Les policiers sont à bout de patience, voire plus, et ils le disent. Écoutez, ces 3 syndicalistes d'Alliance, successivement à Rouen, à Caen et dans les aéroports de Paris.
On bloque le commissariat, des consignes ont été données. Les fonctionnaires de police sortent uniquement sur réquisition appel 17. Néanmoins, c'est service minimum.
On demande du matériel, que le matériel soit plus en dotation collective. On a 15 paires de jambières, on a 20 collègues qui partent en maintien de l'ordre. Il y en a 5 qui n'ont pas de jambières.
Le but est de montrer que quand la police aux frontières fait son travail très en profondeur, comme il doit être fait en cas d'état d'urgence, eh ben les files d'attente sont largement rallongées.
André Goutard, la prime exceptionnelle de 300 euros n'a pas suffi, vraisemblablement, hein.
Non, parce qu'il y a un lourd contentieux, effectivement, sont les heures sup non payées, plus de 20 millions d'heures sup non payées.
275 millions d'euros.
Absolument. Donc c'est énorme et c'est un vieux serpent de mer depuis l'arrivée des 35 heures, hein, un vieux serpent de mer dans la police, mais aussi chez les infirmières, mais aussi voilà dans toutes ces grandes toute cette fonction publique qui travaille énormément. Et c'est vrai que les syndicats de police se sont mobilisés parce qu'ils sentaient que le mouvement risquait de nouveau d'être récupéré de façon pulsionnelle et sans les syndicats. Donc effectivement, ceux-ci se sont mobilisés pour soutenir leurs policiers.
David Bosmorin, il suffirait de faire un chèque. Vous évoquiez cette somme, effectivement, ce retard colossal à 275 millions d'euros d'heures sup impayées.
Cela pose en fait le problème d'une République qui finalement est en panne. Parce qu'il y a des arriérés, comme le disait Audrey, avec les policiers, dans le milieu hospitalier.
Et on a vu les pompiers aussi qui contestent.
Les pompiers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que et le gouvernement se retrouve impuissant, sauf lorsque tout à coup on a un phénomène qui est spectaculaire, puisqu'on vit dans une société qui finalement est dictée ou subit le diktat du spectacle et qui finalement obéit à cette obligation, c'est-à-dire parce que finalement les gilets jaunes ils étaient pas très nombreux. À la base, on a quand même des syndicats, le système démocratique fonctionnait avec des corps intermédiaires et des corps constitués, tout à coup c'est en panne.
Jean-Sébastien Ferjou, on n'en parle que parce que finalement les trains n'arrivent pas à l'heure. Mais le quotidien des policiers est très difficile.
Les policiers tapent du poing sur la table et ils ont bien raison, mais ça traduit le fonctionnement de la démocratie sociale en France. Et je vais vous dire, l'État est un manager horrible. Aucune entreprise privée se comportant comme l'État le fait avec ses agents ne pourrait survivre sans être condamnée, que ce soit sur les rémunérations ou que ce soit sur le reste. Parce que là, il y a le sujet de la rémunération des policiers, mais il y a aussi bien d'autres choses dont ils auraient besoin pour aussi se sentir mieux, parce qu'il y a les suicides dans la police qu'il faut pas oublier. Il y a un malaise qui est profond. Mais regardez comment ça fonctionne en France. Ça fonctionne sur le fait que vous avez des gens qui, parce qu'ils ont leur métier à cœur ou parce que leur statut leur impose, comme les policiers, les militaires, les infirmières ou d'autres, ces gens-là ils continuent à se défoncer. Et puis à côté, vous avez dans le secteur public des gens qui font du mauvais gras et qui, eux, ne, pour parler concrètement, ne font quand même pas grand-chose, ne font pas beaucoup d'efforts.
Mais c'est pas l'objet de cibler X ou X aujourd'hui. Et ça, c'est la responsabilité de l'État en tant que manager. Mais l'État est un manager extrêmement lâche parce qu'il se trouve en général que ceux qui ne font pas grand-chose, justement, sont très mobilisés au sein de leur syndicat. Et donc, ils arrivent à préserver leur précaré. Vous vous souvenez, au moment des 35 heures, du passage aux 35 heures dans la fonction publique, pour un certain nombre de corps, il a fallu réfléchir à comment on allait les faire passer aux 35 heures, mais en passant depuis 27 ou 28. C'était ça le sujet.
Céline Boisson.
Et donc, il y a deux réalités. Une qui est exténuée et saurée, et l'autre qui, parce qu'elle est revendicatrice et que l'État est lâche et lui cède, ben, absorbe toutes les ressources.
Vous avez une vision aussi sombre, aussi pessimiste que votre voisin Jean-Sébastien Ferjou. Ces policiers qui manifestent, après tout, il faut leur donner des salaires, du moins rattraper des primes, et du matériel de l'équipement. C'est aussi bête que ça.
Il y a deux points. C'est un, effectivement, il y a 275 millions d'euros d'heures supplémentaires sur 10 ans. Donc déjà, je n'arrive pas à comprendre comment on a pu durer pendant 10 ans à ne pas payer ces heures supplémentaires. Effectivement, dans une entreprise, on serait condamné bien avant cela. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne pense pas me souvenir voir des commissariats fermés aujourd'hui, parce que c'est quand même la police qui nous protège, parfois qui se fait caillasser.
Alors, mais c'est une grève du zèle, les urgences sont assurées toujours.
Les urgences sont assurées, mais quand même, c'est quand même une partie de la France, un certain type de Français qui ne parlait pas avant et aujourd'hui qui revendique haut et fort parce que il y a un épuisement professionnel, un épuisement d'engagement aussi. Et ça aussi, c'est assez anxiogène quand même pour la société actuelle, la société de
Rodrigue Outard, historiquement, en 2007, quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il s'attaque à ces chantiers. Vous savez, l'équipement informatique des policiers, le renouvellement du parc automobile, la rénovation de certains commissariats. Qu'est-ce qui se passe au fond? Est-ce que nous sommes face à une forme d'inertie en ce qui concerne les forces de l'ordre?
Ah non, c'est pas du tout une inertie. C'est pardon.
Des choses se font ou pas?
Des choses se font. D'abord, des choses se font. Ensuite, il y a pas un policier, mais plein de différentes branches dans la police. Par exemple, les CRS, eux, leurs heures sup, je peux vous dire, sont payées rubis sur ongle. C'est un peu comme les contrôleurs aériens. On ne se permet pas. L'État a toujours payé les heures sup des CRS. Par ailleurs,
Il ne faut pas désespérer les compagnies républicaines de sécurité.
On revient. Il faut revenir encore. Excusez-moi, mais un peu plus historiquement, la fonction publique, allez-y. C'était la sécurité de l'emploi. Donc, effectivement, on rentre dans la fonction publique, on accepte d'être pas très bien payé, d'avoir des commissariats, là en l'occurrence, puisque c'est les commissariats dont on parle, qui ne sont pas dans un état flambant neuf, quoique il y a eu des plans de rénovation des commissariats qui ont été développés justement à partir de 2007, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, mais il y avait la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi ne suffit plus. Et puis, les fonctionnaires se sentent menacés. Donc, effectivement, ces heures sup, tout remonte à la surface et les policiers, comme mais ça sera bientôt les infirmières, ça sera bientôt tous les professeurs, etc. C'est-à-dire que plus personne n'accepte de ne plus être comme rémunéré à la façon du privé.
Et ils le font savoir. 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Une enquête est ouverte par le parquet de Paris après la mort d'une femme aux urgences de l'hôpital Lariboisière. Un décès inexpliqué constaté 12 heures après son admission. Une enquête interne est également menée pour reconstituer la chronologie des faits et savoir si la patiente a bien été reçue par un médecin. Le grand débat ne devra pas détricoter les décisions prises depuis le début du quinquennat. Voilà la position du gouvernement qui prépare la concertation nationale censée apaiser la crise des gilets jaunes. Un débat au niveau local qui débouchera sur des propositions concrètes, espère le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. C'est un texte fortement critiqué par certains. Le pacte de Marrakech sur les migrations a été ratifié avec une large majorité par l'Assemblée générale de l'ONU. 152 votes pour, 5 contre, dont les États-Unis et la Hongrie. Et puis les footballeurs lyonnais rejoignent le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ils s'imposent 3-2 face à Amiens. 6 autres matchs sont à suivre dès 21h05. Parmi eux, Nice, Guingamp ou Monaco face à Lorient.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors, certains économistes avancent l'idée selon laquelle les 10 milliards d'euros libérés par Emmanuel Macron pourraient donner une sorte de coup de pouce à la consommation l'an prochain. Vont-ils suffire en tous les cas à calmer la colère? Non, évidemment, répond Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui était l'invitée de RTL ce matin.
Bien sûr, c'est insuffisant. Enfin, 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros.
Non, mais d'accord, 10 milliards d'euros, c'est la moitié du CICE. Enfin, c'est la moitié des cadeaux monstrueux qu'on a fait aux grandes entreprises, auxquelles on n'a même pas exigé en contrepartie qu'elles créent de l'emploi ou qu'elles le maintiennent. Tout est un problème, si vous voulez, de manière dont on dépense l'argent. Et c'est un vrai sujet de fond, car les Gilets jaunes, ils ont exprimé en réalité qu'ils n'étaient pas consentants à l'impôt, pas seulement au niveau de l'impôt, pas seulement à la manière dont il était décidé, mais aussi à la manière dont il était dépensé. Et c'est tout ce sujet-là qui, à mon avis, va cadencer les années du quinquennat qui reste.
David Bosmore, est-ce qu'on peut passer son temps à opposer, au fond, les Français qui attendent et les entreprises, comme le fait Marine Le Pen et d'autres, hein, elle n'est pas la
ça
seule.
Ça, c'est une vaste question. Mais ce qui est intéressant, c'est ce matin, à la une du New York Times, il y avait un titre, en fait, qui expliquait que finalement, les Gilets jaunes allaient faire le lit de l'extrême droite et des extrêmes en général en France.
Pourquoi?
Probablement parce qu'il va y avoir un phénomène de récupération, et ce phénomène de récupération, je pense qu'on va bientôt l'observer lors du prochain scrutin européen.
Vous voulez dire que ce qui s'est produit depuis plusieurs semaines, au fond, est tout bénef pour le Rassemblement National de Marine Le Pen ?
Il va se passer quelque chose, en tout cas. Peut-être que ça ne sera pas forcément pour Marine Le Pen et qu'il y aura aussi des dispersions de voix. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. De manière évidente, lorsqu'on voit le niveau d'abstention et lorsqu'on observe le niveau de participation aux élections.
Céline Boisson, sur cet aspect des choses, la transformation, si je puis dire, politique, la suite politique du mouvement des Gilets jaunes, vous êtes d'accord avec David Bosmore?
Bah, les européennes, on verra bien les résultats, mais oui, je pense qu'il y a un risque quand même d'aller vers des extrêmes, enfin vers quelque chose j'ai l'impression qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on s'est permis des choses qu'on se permettait pas avant, et que avoir un vote un peu contestataire, extrême, fait un peu moins peur qu'avant.
Vous voulez dire que la contestation serait désinhibée, par exemple?
Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, alors il n'y a pas que le vote, il y a la parole, il y a l'échange, il y a le débat, et du coup, ça peut avoir des conséquences un peu dangereuse.
Alors Jean-Sébastien Ferjou, pour rebondir sur ce qui est dit à l'instant, on a dit que les Gilets jaunes, au fond, étaient apolitiques, du moins dans tous les sens politiques, et que les partis politiques n'arrivaient pas à monter dans le train en marche. Vous pensez que cela peut se transformer différemment au fil des semaines et des mois qui vont arriver jusqu'à l'élection des européennes ?
Ben, on verra. En l'état, effectivement, personne n'est vraiment en mesure de contrôler le mouvement. Et même au sein des Gilets jaunes, on voit que ceux qui envisageraient de se présenter aux élections européennes, puisque ici ou là, la possibilité d'une liste, d'une ou plusieurs listes d'ailleurs, a été évoquée, tout de suite se font assez vite rejeter. C'est dire la profondeur de la crise politique, de la crise de défiance que nous vivons. C'est une contestation absolue du statut même de l'élu, puisque les Gilets jaunes, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, peut-être ce qu'on a entendu, commence à dire que de toute façon, à partir du moment où vous n'êtes plus un Français comme un autre, vous n'êtes déjà plus légitime. Ce qui est tragique parce que, évidemment, aucune démocratie ne peut fonctionner sans corps intermédiaire. Il n'existe pas de démocratie directe, à part peut-être quand vous êtes dans une principauté et que vous arrivez à rassembler tout le monde sur la place du village. Mais sinon, et encore, j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça à Monaco, mais sinon, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe vraiment pas. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que c'est pas juste la contestation, c'est une demande de volontarisme. Et pourquoi les partis comme celui de Marine Le Pen, par exemple, engrangent chez votre contestataire? C'est parce qu'en général, vous avez des politiques qui vous disent « Ah ben oui, mais vous comprenez, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a Bruxelles, on ne peut pas parce qu'il y a les marchés financiers, on ne peut pas parce que si, on ne peut pas parce que ça. »
Dans ceux qui disent qu'on pourrait, du coup, sont bénéficiaires.
Le simple fait de dire « mais si, on pourrait », finalement, sans même avoir vraiment besoin de préciser comment, le simple fait de dire « on pourrait » est un puissant moteur pour capter des votes dans ce pays. Et donc les Gilets jaunes, ils poussent ce mouvement-là un cran encore plus loin. Ça remet au goût du jour le volontarisme en politique.
Audrey Goutard, le politique sera plus vite de retour que prévu, apparemment, non ?
J'ai pas le sentiment. Je pense qu'il est compliqué de faire des sondages sur les volontés politiques des Gilets jaunes. Je pense que c'est un mouvement qui a surtout une crainte énorme d'être phagocyté. de se faire phagocyter par le politique et qu'il reste sur cette vision paranoïaque de la politique. Donc, pour le moment, dire qu'un gilet jaune qui n'a jamais voté ou qui ne votait plus, qui s'est retrouvé sur son rond-point, et dire que ce gilet jaune-là, maintenant, va tomber dans les bras de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'effectivement, ils disent il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à, dire à Bruxelles d'aller se faire voir ou il n'y a qu'à fermer les frontières, je ne suis pas sûre que ce soit la philosophie même de ces gilets jaunes.
Alors Marine Le Pen évoquait tout à l'heure les entreprises qui bénéficieraient selon elle de trop de cadeaux. Et il y a cette prime que les 1000 euros, enfin jusqu'à concurrence de 1000 euros, que les entreprises sont censées verser aux salariés n'excédant pas 3600 euros de revenus mensuels nets. Les entreprises désireuses de verser la dite prime exceptionnelle devront le faire avant le 31 mars si elles le veulent bien. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, était l'invité de France Info ce matin.
Vous appelez les entreprises à utiliser cette prime.
J'appelle les entreprises qui peuvent le faire et qui ont les moyens de le faire à essayer de verser cette prime, bien sûr.
Et vous vouliez donner un chiffre, vous avez dit ?
Oui, le chiffre de 2011, qui est le chiffre de la dernière prime, puisque c'est pas une nouveauté. La prime pouvoir d'achat, alors Sarkozy, enfin sous le quinquennat de Sarkozy, il y avait 10% des entreprises qui s'en étaient
saisies. Là, on sera au même niveau.
Pas 10% des salariés, d'ailleurs, pour être précis. Non, je pense qu'il y aura plus parce que la conjoncture est meilleure, première chose. Et deuxième chose, les Français, enfin les patrons, ils sont comme les Français. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils sont pas ni sourds ni aveugles.
David Boss-Morin, on a cette prime qui est annoncée comme une sorte de ballon d'oxygène. Ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Et on a le patron des patrons qui invite les chefs d'entreprise à essayer de verser la prime. Est-ce à dire que, décidément, nous sommes dans le règne de l'incitatif?
On est surtout dans le règne de l'incommunication absolument totale, c'est-à-dire que plus personne n'arrive à s'entendre ou se comprendre, voire à se parler, et ça devient difficile. On le voit entre l'Élysée et Matignon, entre Matignon et Bercy, entre Bercy et le MEDEF, etc., etc. Comme le disait Jean-Sébastien, on est sur une crise du fonctionnement démocratique qui commence à devenir un petit peu préoccupante.
Céline Boisson, vous pensez que ces patrons vont jouer le jeu?
Oui, je pense, j'espère. Pas tous, parce que gérer une entreprise, c'est compliqué. Enfin, toutes les entreprises, malheureusement, n'auront pas les moyens. Mais je pense que certaines entreprises, ça va déclencher des primes qu'ils n'auraient pas prévues. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
Jean-Sébastien Ferjou, l'incitatif, décidément. Depuis le CICE, ça marche, ça. Hein.
Mais
inciter à embaucher, inciter à verser une prime.
Je ne crois pas qu'inciter à embaucher, ça ait tant que ça marché. Effectivement, les entreprises, il y a eu la grande peur des possédants quand même au moment du samedi où il y a eu la violence dans Paris. Et d'ailleurs, un certain nombre de grands patrons ont appelé Emmanuel Macron pour dire maintenant ça suffit, il faut que tu cèdes, ne sois pas plus royaliste que le roi ou richiste que le riche en quelque sorte. Parce qu'il vaut mieux que ça nous coûte cher maintenant plutôt que nous perdions tout ensuite. Maintenant, ça va générer forcément une différence entre les petites et les grandes entreprises. Et dernière chose sur la rhétorique des cadeaux aux entreprises. Enfin, quand même, si on prend l'exemple de Noël, si je viens chez vous, Jean-François, et que je vous dis « Tiens, ton cadeau cette année, c'est que je ne te reprends pas celui de l'année dernière », c'est pas exactement la même chose que si je vous en apporte un. Parce que ce ne sont pas des cadeaux faits aux entreprises. Ce sont à chaque fois des décisions sur le fait de prélever moins d'argent. Donc après, la logique, c'est de se dire, est-ce que le niveau de la fiscalité sur le capital ou sur la production dans ce pays est au bon niveau? Mais arrêtons de parler de cadeaux, parce que le CICE, pour le coup, j'ai toujours pensé que ça serait inefficace, et ça s'est révélé inefficace, mais quoi qu'il en soit, ça n'était pas un cadeau, c'était juste un crédit d'impôt.
Allez, laissez-moi mes cadeaux, hein, Jean-Sébastien. 20h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Boris Allier.
Les syndicats de policiers de retour au ministère de l'Intérieur ce soir, mais les négociations avec Christophe Castaner ont été interrompues au moins jusqu'à 22h. Le ministre a besoin d'arbitrage, selon l'UNSA Police, l'intersyndicale qui appelait à une grève du zèle aujourd'hui. La prime de 300 euros proposée par le gouvernement n'est pas suffisante, selon les représentants de fonctionnaires. Le soulagement des salariés d'Ascoval dans le Nord, la justice valide la reprise de l'aciérie de Saint-Saulve. Le sauvetage des 281 emplois est assuré par le projet du seul repreneur, le groupe franco-belge Altifor. Une excellente nouvelle selon le directeur de l'usine, salué par les applaudissements des salariés tout à l'heure. Le Lévothyrox reste dans le viseur de certains patients. Une centaine de plaignants réclament en justice l'annulation du nouveau brevet de l'entreprise Merck. Le médicament soignant la thyroïde est accusé de graves effets secondaires par des milliers de malades. Et puis les quelques 2000 soldats américains quitteront bientôt la Syrie, c'est ce qu'assurent les responsables américains. Alors que Donald Trump lui se félicite, l'objectif de vaincre l'État islamique en Syrie est atteint selon lui. C'était la seule raison de la présence américaine dans le pays, ajoute-t-il sur Twitter.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Faut-il y voir un message en direction des Gilets jaunes? Bruno Le Maire lance la taxe GAFA. Le gouvernement veut faire payer les géants américains, Google, Amazon, Facebook, Apple, on peut y ajouter Microsoft, les GAFAM, qui génèrent des revenus colossaux, mais ne paient que peu d'impôts. Le ministre de l'économie va s'attaquer aux bénéfices, comme il l'a annoncé sur BFM TV ce matin.
500 millions d'euros.
Ça va mais rapporter 500 millions.
Ça rapportera 500 millions d'euros.
Quoi?
J'espère que ça pourra rapporter davantage. On va taxer le chiffre d'affaires. Parce que ça, le chiffre d'affaires, on le connaît. Oui. Il est simple à définir.
Donc vous avez
le chiffre d'affaires.
Pas, vous allez prendre 1% du chiffre d'affaires
de toute l'année 2019. Le taux sera de 3%. Plateforme numérique, données personnelles, revenus publicitaires, c'est ce qui sera taxé.
Audrey Goutard, c'est la bonne idée?
Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que cette bonne idée n'ait pas été appliquée. Je me souviens de politiques qui nous expliquaient que c'était impossible, que tout dépendait de l'Europe, que sans l'avis de l'Europe, on pouvait rien faire. Et puis finalement, on se rend compte que oui, on peut faire, et puis qu'on demandera à l'Europe après. Donc je trouve ça alors très plein d'enseignements, et je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, enfin, mais je suis sûr que ça les intéresse.
Jean-Sébastien Ferjou.
Non, mais sauf que déjà le principe de taxer un chiffre d'affaires économiquement, c'est absurde. Vous pouvez avoir un chiffre d'affaires de 500, de 1000, de 100 millions si vous voulez. Si vous avez une marge qui est négative et que vous perdez de l'argent, mais fiscalement, c'est une absurdité. C'est une absurdité institutionnelle aussi, parce que ça risque d'un de générer des mesures de rétorsion, c'est-à-dire que d'autres pays se disent ah ben tiens, il y a des grands groupes français comme l'industrie du luxe par exemple qui génèrent beaucoup de bénéfices chez nous. Eh ben on va faire pareil, on va taxer leur chiffre d'affaires à eux. Donc quand ça n'est pas coordonné, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Là où il y a une vraie difficulté, parce que je pense qu'effectivement il faudrait que les GAFAM payent des impôts, mais c'est que la logique est de remettre en cause l'Europe, puisque pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne comme ça parce que nous avons accepté, notamment que l'Irlande ou que le Luxembourg abrite les sièges de Google, de Facebook, d'Apple, et que c'est la législation européenne qui est en cause. Mais donc le travail de Bruno Le Maire, ou le travail en l'occurrence d'Emmanuel Macron, c'est de dire les traités européens, ils ne fonctionnent pas puisqu'ils ne nous permettent pas de faire ça.
David Bosmorin,
vouloir le faire juste au niveau national, c'est pas, vous faisiez l'hypothèse que c'était pour répondre aux Gilets jaunes. Oui, évidemment que c'est pour répondre aux Gilets jaunes, mais c'est une très mauvaise réponse parce qu'il y aura un retour de bâton. Donc si le gain politique qu'on va avoir tout de suite...
La peur de déplaire, c'est terrible. Effacé. Du coup, on ne fait plus rien.
Comment ?
La peur de déplaire, pardon. Mais
c'est la peur de déplaire.
C'est-à-dire de dire...
Ils vont nous punir. Elle se situe dans le fait de refuser de revenir sur les traités européens.
Excusez-moi, mais Amazon, le marché français est un très bon marché pour Amazon et pour tous ces GAFA. Je veux bien croire effectivement qu'ils vont nous punir, mais quand on regarde... C'est exactement ce qu'on disait à Donald Trump.
Il respecte la légalité.
On va essayer de comprendre.
Donc David, la loi est mauvaise, changeons-la. En l'occurrence, il s'agit d'une loi
qui va se passer.
D'un droit européen. Eh bien, changeons-le.
David Bosmorin, que dites-vous sur la question?
Alors, il y a deux choses. Déjà, je me demande comment Bruno Le Maire arrive au calcul de 500 millions. Point d'interrogation.
Pardon, c'est une estimation.
Ouais, mais même. Et ok, d'accord. Bref, toujours est-il que, en effet, l'Europe permet d'avoir des holdings qui sont situés dans des États européens. Ces holdings facturent donc aux entreprises qui sont situées en France des frais de fonctionnement qui sont remontés annuellement et donc qui, de façon mathématique, diminuent en fait la marge nette, et donc qui mathématiquement également diminue le montant de l'imposition des sociétés, l'IS. Maintenant, en effet, ces sociétés, elles sont en France, elles bénéficient à la fois du dynamisme de la société française, elles bénéficient également de la stabilité des infrastructures françaises, les hôpitaux, les écoles, les routes, l'éclairage, etc., enfin, tout. Donc, en effet, on n'est plus sur un souci d'équilibre sur... La participation globale.
Vous êtes pour, alors?
Non, mais il faut qu'ils payent des impôts, hein. c'est pas le sujet. S'agit-il du bon moyen
que ça marche
de manière durable?
Il y a trois points que je voudrais aborder. C'est effectivement un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Je suis d'accord avec vous. C'est pas possible. Ça peut, la rentabilité de l'entreprise ne vient pas du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Taxer, oui, mais pas forcément sur le chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est, il y a une idée, il faudrait prendre le problème de façon un peu plus globale parce qu'il y a une vraie inégalité. On est tous inégaux devant la fiscalité en France, les entreprises, et qu'à un moment donné, toutes les entreprises devraient payer de façon égale par rapport à un pourcentage, par rapport à une activité, leurs impôts, les GAFA comprises. Et c'est comme ça qu'on trouvera...
Règle selon vous au niveau de préférence européen?
Oui, oui.
Non, mais ne serait-ce qu'en France, n'importe quelle PME paye beaucoup plus de taux moyens d'impôt sur les sociétés qu'un groupe du CAC 40.
Voilà.
Mais après, c'est l'optimisation fiscale, c'est légal. Donc le principe, c'est que Bruno Le Maire devrait se soucier du système qui permet ça.
Et c'est ça qu'il faut remettre en cause.
Une application au 1er janvier, nous verrons bien si Bruxelles laisse faire. Avant de nous séparer, je voudrais faire ce rectificatif à la suite de notre débat hier autour de l'initiative des 4 ONG, vous savez, qui ont l'intention de porter plainte contre l'État pour son inaction climatique. Oui, Oxfam France est bel et bien inscrite à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, contrairement à ce qui a été avancé à tort sur ce plateau, nous a écrit Cécile Duflo sur Twitter, et l'auteur de cette erreur lui a sportivement présenté ses excuses. Cela va mieux en le disant, cela fait une polémique de moins sur la planète. Rapidement, Jean-Sébastien Ferjou, la une d'Atlantico.fr.
Un grand entretien avec Emmanuel Todd sur sa vision justement du mouvement des Gilets jaunes.
Et votre prochain invité de l'instant T sur France Info, Audrey
Goutard. Oui, samedi, je reçois Thierry Marx, c'est les fêtes, un chef étoilé et engagé.
Super, merci à vous tous d'avoir suivi les informés de France Info. Je vous donne rendez-vous à demain soir. Bonne soirée.